Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Celui qui se trouve être le plus petit parmi vous tous, celui-là est grand, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. C'est ce qui s'applique très bien à Saint Joseph. Je vais commencer par vous parler de Saint Joseph, qui est dans l'Évangile et dans l'histoire le grand silencieux. Il ne parle pas beaucoup et on ne parle pas de lui. Et pourtant, il joue un rôle extraordinaire. Mais quand Dieu appelle une âme, quelqu'un de particulier, à une mission exceptionnelle, eh bien, c'est Dieu lui-même qui la prépare. Il la prépare à ses missions. Ça vaut de façon éminente pour la très sainte Vierge Marie, c'est bien clair, avec son Immaculée Conception, c'est ce que nous verrons demain. Mais ça vaut aussi pour Saint Joseph, qui avait une mission fondamentale et très difficile, celle de garder la virginité de la Sainte Vierge Marie et celle de conduire l'enfant Jésus jusqu'à l'âge adulte. Il a donc donné à Saint Joseph une sainteté proportionnée, puisque Dieu opère tout avec poids et mesure. Alors nous allons cette fois-ci, comme demain, commencer par contempler le tempérament, le caractère, la sainteté de Saint Joseph avant d'en tirer des leçons pour ce temps de l'Avent que nous allons commencer. Dieu nous donne la grâce d'une nouvelle année liturgique. Théoriquement, une seule année liturgique devrait suffire pour nous sanctifier, si nous en tirions tous les fruits qui s'y trouvent, mais Dieu nous permet d'en faire plusieurs. Alors nous en recommençons une ce soir, puisque ça commence aux premières vêpres de l'Avent, c'est ce soir. Et nous commençons par contempler ce grand silencieux qu'est Saint Joseph. Saint Joseph était d'abord un solitaire. Il était de la famille de David, nous dit l'Évangile, et pourtant il habite Nazareth. Comment se fait-il? Puisque Nazareth est en Galilée, bien au nord de Jérusalem, tandis que la ville de David, c'est Bethléem, là où Jésus va naître précisément. Alors, nous ne savons pas précisément pourquoi, mais certains auteurs pensent qu'il s'est exilé volontairement, qu'il a voulu partir dans un pays inconnu pour y vivre dans le recueillement, retiré, pour en y exerçant un métier humble, artisanal, pour y vivre simple, simplement, silencieux, pour ainsi plus facilement être uni à Dieu. C'est possible, c'est peut-être une des raisons de ne pas être resté dans sa ville d'origine. Le père Turin, qui était un jésuite du XVIIe siècle, je crois, explique que Saint Joseph, dans ce travail simple de charpentier, il n'y avait pas toutes les machines modernes qui font du bruit, qui distraient, on pouvait encore travailler d'une façon relativement simple et silencieuse. Il vaquait à son travail sans être obligé de l'interrompre, dit le père Turin, car quelque occupation qu'il eût en dehors, il se sentait intérieurement attiré par l'unique objet de son amour, l'homme-Dieu et la Vierge-Mère qu'il avait toujours présents. C'était la vie de Saint Joseph après l'incarnation de notre Seigneur, après la naissance de Jésus. Sa vie, c'était cette présence incessante de la Sainte Vierge, de notre Seigneur Jésus-Christ. Présence soit dans la maison, soit à proximité. Mais donc Saint Joseph vit célibataire un certain temps dans ce village de Nazareth inconnu, et puis il rencontre la Sainte Vierge Marie et il se marie. Pourquoi se marie-t-il, puisque tous les deux voulaient rester parfaitement chastes? Eh bien, à cette époque, dans l'Ancienne Alliance, c'était un état qui n'était pas possible de rester célibataire. Parce que le mariage était important pour propager le peuple élu, de façon à propager la révélation, la foi qui se transmettait par ce peuple, qui devait se diffuser dans le monde par la multiplication de ce peuple. Alors il n'y avait pas de place dans l'Ancienne Alliance pour la virginité. Ça n'existait pas. Et ils ont été inspirés, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph ont été inspirés de suivre cette voie parce que précisément Dieu voulait leur faire accueillir le Verbe incarné. Alors, ils se sont rencontrés et pour pouvoir rester célibataires, si on peut dire, pour pouvoir conserver leur chasteté, ils ont choisi de se marier en restant dans la chasteté parfaite dans ce mariage. Et ainsi, en se soutenant mutuellement dans leur recherche de Dieu également, puisque la Sainte Vierge, Saint Joseph, quand ils se sont rencontrés, ont bien compris qu'ils étaient épris du même désir de solitude, de présence à Dieu. Saint Joseph est donc un homme qui fuit les vanités de la terre. C'est aussi un homme, ça va ensemble, un homme du silence. Je vous le disais, il ne parle pas. Dans l'Évangile, il n'y a pas de mention directe de ses paroles, mais il y a tout de même une mention indirecte. Nous savons au moins d'une façon certaine qu'il a dit une parole, c'est Jésus, parce que c'est le Père qui devait donner le nom des enfants. Bon, quand notre Seigneur a été circoncis, c'est Saint Joseph qui a donné son nom Jésus. Et c'est très beau parce que cette seule parole dont nous sommes certains, c'est l'essentiel de sa vie. Jésus. Ce silence de Saint Joseph, c'est un silence, notamment après l'incarnation, après la naissance de Jésus, c'est un silence de vérité. Il atteste que lui-même n'est pour rien dans toutes les grandeurs dont il est le témoin, dont il est l'objet. Il n'est pour rien dans l'incarnation, il n'est pour rien dans l'éminente sainteté de la Sainte Vierge Marie, et ce silence est comme une façon de professer que tout ce qui est à côté de lui ne vient pas de lui, et que c'est ça que nous devons regarder, la Sainte Vierge, notre Seigneur. Et donc, Saint Joseph est silencieux dans l'Évangile, il est aussi silencieux dans l'histoire, parce que son culte a commencé assez tard, comme vous le savez. C'est simplement au XVIIe siècle qu'un pape a élevé la fête de Saint Joseph au rang deuxième classe, ce n'est pas encore première classe, deuxième classe. Et encore en France, c'est simplement Louis XIV qui a fait célébrer la fête de Saint Joseph comme fête chômée dans tout le royaume. C'était d'ailleurs le premier acte de son gouvernement, quand il a pris les rênes du gouvernement après la mort du cardinal Mazarin. La première chose qu'il a faite, c'est d'exécuter les ordres du pape et d'instituer pour tout le royaume la fête de Saint-Joseph comme fête chômée. Mais donc ce culte s'est répandu assez tard, davantage au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Il faut attendre des siècles avant que la piété des fidèles se tourne vers lui. Saint-Joseph est peu apparu également. Vous connaissez la belle apparition à Cotignac, en Provence, où là encore, il a très peu parlé, il a simplement dit à ce berger Gaspard, si tu as soif, déplace cette pierre et tu pourras boire. Et c'était tout. C'est donc un homme qui fuit les vanités de la terre et un homme tout intérieur, attentif à l'essentiel. Ce n'est pas un bavard, ce n'est pas un rieur, pas forcément mal de rire, mais ce n'est pas un rieur, c'est un homme intérieur qui s'attache à l'essentiel. Il est solitaire, mais c'est aussi un homme de foi. Et pour nous, c'est un bel exemple. Un homme d'une foi extrêmement profonde, extrêmement solide. Puisqu'il a eu à affronter cette grande épreuve que vous connaissez, la grande épreuve que son épouse, sa fiancée, la Sainte Vierge Marie, devient enceinte et il ne sait pas comment. Et il ne peut pas comprendre, ce qui s'est passé. Donc il la connaît bien, il l'a choisie parce qu'elle vit du même désir de Dieu, de ce même désir d'être à Dieu seul, et mystérieusement, elle devient enceinte. Notre-Dame ne lui dit rien, mais elle ne lui a rien dit du message de l'ange à l'Annonciation. Le ciel ne lui dit rien, que doit-il faire? La Sainte Vierge ne lui a rien dit parce que si un ange lui a annoncé cette naissance, elle sait que Dieu conduit les événements et ce n'est pas à elle de prendre les devants. Donc elle laisse le soin à Dieu d'informer Saint Joseph. Mais Saint Joseph, lui, ne sait rien. Comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va se mettre en colère? Est-ce qu'il va renvoyer la Sainte Vierge? Saint François de Sales écrit: il était bien au pouvoir de Notre-Dame d'apaiser cette bourrasque dans l'âme de Saint-Joseph, mais elle ne voulut pas le faire, elle laissa pleinement l'issue de cette affaire à la divine providence. Saint Joseph, connaissant la Sainte Vierge, nous pouvons nous l'imaginer, ne pouvait pas douter un instant de son innocence, de sa virginité, vivant avec elle, la connaissant si bien. Mais il pressentait, même sans doute, qu'il y avait quelque chose de divin, un mystère divin dans ce qui arrivait. Devait-il la renvoyer, puisque la loi de Moïse prévoyait qu'une femme qui enfantait un enfant hors mariage devait être non seulement renvoyée, mais même punie. Devait-il la garder chez lui? Mais il se sentait indigne. Ce mystère le dépasse. Dans sa profonde humilité, il a songé à s'effacer, c'est-à-dire à renvoyer la Sainte Vierge d'une façon cachée, d'une façon privée, non publique, pour qu'elle ne soit pas déshonorée. Mais il ne pensait pas devoir la garder, puisque, nous dit l'Évangile, il était juste. Il était juste, c'est-à-dire qu'il observait la loi, et la loi de Moïse disait qu'il devait se séparer. C'était un homme de droiture à l'âme délicate. Alors, représentons-nous le déchirement de son cœur. Il était heureux d'épouser la Vierge Marie, c'était pour lui de partager avec elle son idéal, c'était son bonheur, et il semble qu'il doive se séparer d'elle. Saint Thomas d'Aquin écrit « Joseph voulut renvoyer Marie par crainte de cohabiter avec elle, par révérence pour sa sainteté. » Quelle angoisse dans le cœur de Saint Joseph avant de se résoudre à ce sacrifice. On peut penser au sacrifice d'Abraham. À Abraham, Dieu a demandé de sacrifier son fils, de mettre à mort son propre fils. Et Abraham l'a fait. Eh bien, ici, Dieu demande à Saint Joseph de se séparer de la Vierge Marie. Il était prêt à le faire. Et au moment de le faire, comme pour le sacrifice d'Abraham, un ange va lui parler. Non pas directement comme pour Abraham, mais en songe. Dieu a accepté son sacrifice, Dieu a éprouvé sa foi, et maintenant il va lui révéler ce qui s'est passé. Et Saint Joseph retrouve la paix. Dans cette épreuve, Saint Joseph a su garder un cœur indifférent, n'aimant que la volonté de Dieu. Dans sa sensibilité, il souffrait, mais au fond de l'âme, il éprouvait toujours la paix et la tranquillité. C'est ce que dit aussi saint François de Sales. Joseph ne se plaint point, ni n'en témoigne rien en son extérieur. Il n'est point plus amer en sa conversation avec la Sainte Vierge. Il n'en fait pas la mine, en français on dirait la tête, il n'en fait pas la mine à Notre-Dame. Il ne la traita point mal, mais au contraire, simplement, il souffre sa peine, et on veut faire autre chose que la quitter. Dieu sait pourtant ce qu'il pouvait faire en ce sujet. La foi, précisément, a pour propriété d'être obscure. La foi, dans sa pureté, est de plus en plus obscure. Et Saint Joseph, dans sa foi, a rencontré dans cet événement cette pénombre, cette obscurité terrible. Et Dieu, dans toute la vie de Saint Joseph, si on va plus loin, ne l'a que très peu éclairé, ne l'a que très peu informé. L'ange se contente de lui dire en songe, ce qui est conçu en Marie est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il apprend. Le merveilleux, vous voyez, n'arrive pas à Saint Joseph. Il assume les responsabilités, il assume le labeur, les difficultés, mais il ne jouit pas des consolations que lui donnerait une longue explication, une grande illumination. Non. Dieu ne lui parle que très peu. Quand notre Seigneur va naître à Noël, Les bergers ont vu les anges qui leur ont annoncé la naissance. Saint Joseph, rien. Il n'a rien vu. Il a entendu le témoignage des bergers. Il n'était pas présent à l'annonciation non plus. Il n'apprend que par oui-dire. Sa foi se forme en dehors de cela et au-dessus de cela. Vous voyez, Dieu n'avait pas besoin, comme pour les bergers, de lui envoyer des anges, parce que Saint Joseph avait une foi suffisamment profonde pour croire facilement aux témoignages, aux paroles de Dieu ou de ses représentants. C'est là qu'on voit la profondeur de sa foi. De même, quand il doit fuir en Égypte, plus tard, l'ange ne lui dit que le minimum. Lève-toi, prends l'enfant avec sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse. Et c'est tout. Et il se lève la nuit et il part. Quelle foi extraordinaire, mes frères. Il n'hésite pas un instant, il n'objecte rien. Il ne connaît pas ce pays, il ne connaît pas la langue, il ne sait pas de quoi il va vivre. Et il part. Il a confiance dans la parole de Dieu. Puis, les longues années, retour à Nazareth, les longues années avec Jésus, rien ne se passe. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, il ne fait rien de particulier. Comment va-t-il sauver le monde ? Mystère. Sur quoi se fondait la foi de Saint Joseph ? Certainement qu'il a été instruit par la connaissance des prophéties. Les prophéties, cependant, sont ce qui demande le plus de sagesse, de réflexion. Quand nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament, elles sont loin d'être claires, d'être évidentes. Ça demande beaucoup d'attention, de réflexion, de sagesse pour les comprendre. Représentons-nous donc Saint Joseph méditant, approfondissant le mystère de notre Seigneur, de la Vierge Marie, d'après les prophéties et les figures de l'Ancien Testament. Comme nous dit le Saint Luc de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph conservait silencieusement tout dans son cœur. Il était saisi par ce silence d'adoration de Dieu. Et si Saint Joseph n'a pas parlé, ce n'est pas qu'il n'avait rien à dire, ce n'est pas qu'il était taciturne ou bien flegmatique, c'est qu'il n'avait rien à dire. C'est que tout, pour lui, Dieu était tout et l'essentiel, et il n'avait pas à parler. Alors, Saint Joseph éprouve cette nuit la foi plusieurs fois dans sa vie, au moment de la grossesse de Notre-Dame, au moment de la fuite en Égypte, et puis plus tard, comme je vous le disais, pendant toute l'enfance et la jeunesse de notre Seigneur, où rien ne se passe. Il ne sait pas, il ne comprend pas, mais il croit. Et il continue à croire que cet enfant est le Fils de Dieu et le Messie. Dieu demande à Saint Joseph, après cette épreuve qui a pu durer un certain temps, nous ne savons pas combien de temps exactement, la Sainte Vierge est partie à voir sa cousine Élisabeth pratiquement très tôt après l'Annonciation, peut-être un ou deux jours après l'Annonciation. Elle est partie 6 mois, elle est rentrée. Combien de temps, donc c'est à ce moment-là que Saint Joseph a appris qu'elle était enceinte. Combien de temps a duré son épreuve avant que l'ange vienne lui dire, nous ne savons pas, peut-être des semaines. Puis Dieu lui a éclairé. Là, Dieu l'a éclairé. Et Dieu lui demande de prendre chez lui la Vierge Marie pour consacrer sa vie au service de la Mère de Dieu et de Dieu incarné. Saint Joseph accueille ce message de tout son cœur, mais son humilité le fait tout de même souffrir, parce qu'il se sent certainement indigne et peut-être incapable d'une telle mission, de recevoir Dieu chez lui, de conduire la Sainte Famille. Il va accueillir ce message, l'approfondir peu à peu pendant les mois qui précèdent la naissance de Jésus. Que pouvons-nous tirer comme leçon de cette vie de Saint Joseph, de ce tempérament de Saint Joseph que je vous disais, solitaire, silencieux? Eh bien, c'est l'atmosphère du temps de l'Avent. Première résolution, première disposition pour bien nous préparer à la naissance de Jésus. Vous savez qu'il y a 3 naissances que nous célébrons dans le temps de l'Avent. Il y a la naissance historique, le rappel de l'événement de la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans. Et puis, il y a la naissance qu'on dit mystique, c'est-à-dire une nouvelle présence de notre Seigneur dans notre âme, une augmentation de la grâce et donc de la présence de notre Seigneur dans notre âme, un renouvellement, on pourrait dire, un rajeunissement de la vie divine dans notre âme. Et puis, l'avènement, c'est le troisième sens de l'avant, l'avènement eschatologique, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur à la fin des temps. Eh bien, quand nous considérons surtout ce deuxième avènement, l'avènement mystique, la nouvelle venue, le rajeunissement de notre vie spirituelle, l'esprit de silence est une disposition tout à fait adéquate et nécessaire. La contemplation et le silence contemplatif n'est pas un luxe réservé aux religieux qui ont embrassé l'état de vie contemplatif. Cette attention habituelle à Dieu, parce que le silence n'est pas un vide, le silence doit être plein, il doit être plein d'attention à Dieu. Et cette attention à Dieu habituelle, cette vue de soi sur les mystères, fait partie de la vocation de tout baptisé. Nous sommes appelés, je le disais tout à l'heure, à une vie éternelle avec Dieu. Et ici-bas, ce n'est que le commencement, ce n'est que les premiers germes de cette vie éternelle. Mais l'essentiel de notre existence, je le disais tout à l'heure, ce sera la vue de Dieu, la connaissance de Dieu, la contemplation de Dieu et la vie avec lui. Et depuis notre baptême, cette vie a commencé. Elle est ici dans la nuit parce que nous ne voyons pas encore, mais nous le connaissons déjà par la foi et par cette connaissance de foi qui a commencé au baptême. Donc cette vie de contemplation, il est tout à fait juste pour tous les chrétiens, selon les circonstances, plus ou moins, et il est juste qu'elle commence déjà ici-bas. Ce n'est pas réservé aux religieux, ce n'est pas réservé à la vie après la mort. Saint Joseph, remarquez-le bien, se trouvait dans l'état de vie active. Il n'était pas dans l'état de vie contemplatif, il était artisan, il travaillait de ses mains, il devait être attentif à ce travail de ses mains. Il était père de famille, il devait pourvoir et diriger sa famille, il n'était pas dans l'état de vie contemplatif. Et pourtant, il était contemplatif, très profondément, nous l'avons vu, c'était la raison de son silence. La condition de vie intérieure à laquelle l'Avent nous invite à revenir, c'est une nouvelle année liturgique qui nous rappelle, qui doit nous rappeler le but de notre vie, ce but non pas de la vie jusqu'à la mort, mais de la vie éternelle. La première condition, c'est ce silence. Le silence extérieur d'abord, qui est au service du silence intérieur, l'essentiel. Le silence extérieur n'est pas le plus important, mais il est une disposition au silence intérieur. Je vais vous citer pendant cette collection plusieurs fois des textes de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, que vous connaissez sans doute, qui était une carmélite du tout début du XXe siècle, enfin qui est morte au tout début du XXe siècle, et qui a reçu une grâce particulière, justement cette grâce du recueillement intérieur, du silence intérieur, et qui explique à ses amis, à ses parents, en quoi ça consiste. Elle ne considère pas que c'est réservé au Carmel, elle explique à toutes ses connaissances qui vivent dans le monde, comme vous-même, chers fidèles, vous vivez dans le monde. Alors voici ce qu'on rapporte d'elle et ce qu'elle-même écrit. Déjà quand elle était jeune fille, avant même d'entrer au Carmel, quand elle n'hésitait pas à participer aux réunions de la jeunesse, aux bals, etc. Mais quand elle était retenue au milieu de ces réunions et des fêtes mondaines, son âme s'élevait jusqu'à Dieu. Elle fuyait le tumulte. Elle écrit « Il me semble que rien ne peut distraire de Dieu lorsqu'on n'agit que pour lui, toujours en sa sainte présence, sous ce divin regard qui pénètre dans le plus intime de l'âme. » Et puis ici, très belle phrase. « Même au milieu du monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. » Même dans le monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. Vous voyez, nous sommes tous appelés au ciel, à la vie éternelle, à connaître Dieu face à face, à vivre avec lui. Ici-bas, nous sommes occupés nécessairement à beaucoup de choses. Mais si le cœur cherche Dieu, C'est l'équivalent du silence, le silence du cœur qui ne veut être qu'à Dieu. Et elle reprenait l'enseignement de Sainte Catherine de Sienne, qui était elle aussi, qui vivait elle aussi dans le monde, c'était une tertiaire dominicaine au XIVe siècle, et elle vivait dans le monde, dans sa famille en partie. Elle a dû, à la demande de Dieu, elle a dû même aller à la cour romaine, voir le pape, elle a dû aller voir les princes, etc., pour mettre la paix entre les cités, mais elle restait toujours recueillie dans ce qu'elle appelait sa cellule intérieure. Sa cellule intérieure. Un refuge, on reste dans la recherche de Dieu, dans la volonté de Dieu, même au milieu du monde. Même au milieu des agitations des hommes, même au milieu de l'action qui pouvait être la sienne à Rome, ou auprès du pape, ou auprès des princes pour essayer de pacifier les cités italiennes. La bienheureuse Élisabeth dit encore, dans ce sens du silence intérieur, une âme qui discute avec son moi, qui s'occupe de ses sensibilités, qui poursuit des pensées inutiles, un désir purement naturel, cette âme disperse ses forces, elle n'est pas toute ordonnée à Dieu, et le maître, quand il touche la lyre de son âme, ne peut en faire sortir des harmonies divines. Il y a encore trop d'humains, c'est une dissonance. L'âme qui se garde encore quelque chose en son royaume intérieur, dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu, ne peut être une parfaite louange de gloire. Ce qu'elle veut dire, c'est que nous devons fuir, chasser l'égoïsme qui fait du bruit dans notre âme. Finalement, c'est ça le manque de silence. C'est la recherche de nous-mêmes, égoïstes, au lieu de rechercher la volonté de Dieu. Et Saint Joseph nous fournit, lui, l'exemple de la recherche de Dieu en toutes choses. En pratique, donc le but de ce silence, ce n'est pas de rester à ne rien faire dans un silence qui peut sembler mortel. Le but, c'est de libérer l'espace de notre âme pour la prière, qu'est-ce que ça s'appelle la prière, c'est-à-dire l'entretien avec Dieu, et pour l'action du Saint-Esprit. C'est un silence qui est plein de vie, comme l'était le silence de Saint-Joseph. En pratique, pour vous, chers fidèles, comment grandir dans ce silence intérieur qui, encore une fois, n'est pas réservé aux religieux? Il doit avoir dans chacune de vos âmes, dans des âmes des chrétiens, une place pour le silence. Alors comment faire? Eh bien, pendant ce temps de l'Avent, c'est bien court. Un mois, 25 jours, oui, 25 jours, 24 jours. Laissez les journaux. Aujourd'hui, il y a une difficulté de silence avec cet afflux d'informations. Encore autrefois, il y a 50 ans, il y a 100 ans, vivant à la campagne, il y avait bien quelques bruits, quelques échanges, mais essentiellement, les gens pouvaient rester en silence. Aujourd'hui, avec cet afflux incessant d'images, d'informations, il n'y a plus de repos pour l'âme, de disponibilité pour Dieu. Le Saint-Esprit habite certes en nos âmes, quand nous sommes en état de grâce, mais nous n'y sommes pas, nous. Nous sommes ailleurs. Nous ne sommes pas disponibles à cause de ce bruit qui nous environne. Alors, il faut faire de la place. Donc, laissez ces journaux pendant ces 24 jours. C'est quand même tout à fait possible. S'il y a des nouvelles importantes, on vous le dira, ne vous inquiétez pas. Laissez les journaux, les revues, laissez les blogs surtout, ça c'est le pire. Laissez les informations, mais vous n'arriverez à les laisser, surtout au début, que si vous remplacez. Remplacez par quoi? Par des lectures, par des entretiens plus profonds, par exemple avec vos proches. Voyez, si vous coupez la télévision, si vous coupez la radio, si vous coupez les journaux, vous allez avoir du temps. Et vous allez vous ennuyer peut-être. Eh bien, ne vous ennuyez pas, parlez entre vous. On parle beaucoup moins dans les familles, on ne parle plus assez dans les familles. Parlez entre époux, parlez avec vos enfants. Et puis, lisez des livres qui vont nourrir votre âme, qui vont vous édifier, non seulement des livres religieux ou des livres de piété, mais même des livres d'histoire ou des livres de culture chrétienne qui vont vous élever votre âme, qui vont faire du silence dans votre âme et qui vont vous rapprocher de Dieu. Et alors, votre âme, le jour de Noël, avec évidemment vos prières, vont vous préparer à cet avènement mystique, le deuxième, à cette augmentation de la grâce, à ce rajeunissement de votre âme, de vos relations avec Dieu au jour de Noël. Donc première chose, laissez ces médias, laissez la place et nourrissez votre âme avec du solide. Deuxièmement, et ça va ensemble, écoutez Dieu. Écoutez Dieu qui veut vous parler, parler à votre cœur, qui veut éveiller votre désir de le posséder. Simplement, il ne va pas vous parler tout de suite. Il faut un minimum de silence, il faut une dose de silence avant que vos oreilles, avant que les oreilles de votre âme soient disposées à l'entendre. Parce qu'il parle très doucement, Dieu, le Saint-Esprit parle très doucement. Et tant qu'il n'y a pas de silence, on ne l'entend pas. Donc, cherchez-le. Il a cette année, comme chaque année, quelque chose à vous apprendre. Revenez à cet exemple de Saint Joseph. Vous voyez, Saint Joseph, le grand silencieux, il reçoit l'inspiration d'épouser la Vierge Marie. Puis, il a cette épreuve, puis il reçoit en songe le message de l'ange. Ça suppose que s'il reçoit en songe pour qu'il comprenne que c'est un message de Dieu, ça suppose que étant éveillé, il soit déjà assez silencieux. Parce que ceux qui ne sont pas silencieux pendant le jour, eh bien leurs songes sont bien, leurs rêves sont bien mouvementés et bien remplis. Donc écoutez Dieu, écoutez ce qu'il a à vous dire personnellement et éveillez votre désir de le posséder. S'il n'y a pas de désir de posséder Dieu, ben c'est qu'on est encore loin du ciel. Et s'il n'y a pas de désir de posséder Dieu au moment de notre mort, il va falloir qu'il naisse au purgatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pollution qui empêche notre âme, parce qu'une âme chrétienne qui a reçu la foi, qui vit dans l'état de grâce, forcément, spontanément, elle se porte à chercher Dieu. Et s'il n'y a pas ce désir, c'est qu'il y a des empêchements autour. D'où le rôle de l'année liturgique, d'où le rôle de cet avant, de vous rendre attentif, de ne pas rester à la surface de votre âme. Et alors, quand vous recevrez notre Seigneur à Noël, vous éprouverez une augmentation de paix et de joie, malgré les difficultés. Deuxièmement, donc ça c'était l'esprit de silence. Deuxième résolution pratique, l'exercice de la foi. Vous voyez comment Saint Joseph a été acculé pendant toute sa vie à exercer sa foi d'une façon très intense. Et c'est ça qui l'a fait grandir. La foi nous ouvre l'accès à Dieu. Il n'y a que la foi qui nous permet d'atteindre Dieu ici-bas. Enfin, il y a la charité, mais ça commence par la foi. La foi nous rend tellement certains, écrit un auteur, tellement certains et présents les biens futurs, que par la foi, ils prennent être en notre âme et qu'ils y subsistent avant que nous en jouissions. Par la foi, nous possédons déjà le ciel, par la foi et l'espérance. Par la foi, nous connaissons le ciel alors que nous n'avons, d'après nos sens, rien qui nous permette de le connaître, il n'y a que par la foi, et par l'espérance, nous le possédons. Saint Jean de la Croix dit que la foi nous sert de pied pour aller à Dieu. C'est la route, c'est l'accès. Quelles sont les caractéristiques de la foi? C'est ce mystère, nous connaissons Dieu, mais dans l'obscurité. Imaginez, vous sortez, il fait complètement noir, mais vous savez très bien que votre voiture est là-bas. Vous l'avez laissée, vous n'avez pas besoin de lumière, vous pouvez à la limite marcher si vous connaissez assez bien les lieux, sans lumière, vers votre voiture, et bien ça c'est la foi. Nous savons, bien que nous ne voyons rien, bien que nous n'ayons aucun indice naturel et humain, nous savons absolument certainement où nous allons, vers le ciel. Donc elle est obscure, et vous voyez la différence, et d'ailleurs, il faut préciser, plus la foi grandit, normalement elle doit grandir, plus elle est obscure. Donc ne vous étonnez pas, si votre foi devient de plus en plus obscure, c'est plutôt un signe de progrès. Pourquoi obscur? Parce que la raison de la foi, c'est que Dieu nous le dit. C'est l'autorité de Dieu. Donc au début, notre foi est aidée par des témoignages extérieurs. D'abord, la paroisse. Tout le monde croit dans la paroisse. Mes voisins y croient, mes parents ont cru, mes grands-parents aussi. On voit bien les églises partout dans le pays, les cathédrales. Il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Mais ça, c'est des motifs humains. Ce ne sont pas les motifs parfaits. Le motif parfait, le plus parfait de la foi, c'est que Dieu nous l'a dit. Et quand la foi progresse, elle s'appuie de plus en plus sur ce témoignage de Dieu et de moins en moins sur tous les témoignages humains que nous avons. Elle devient de plus en plus obscure. Et vous voyez tout de suite la différence entre la foi et les sentiments et les impressions. Il ne s'agit pas d'avoir des impressions de Dieu, d'avoir des sentiments de la présence de Dieu, mais d'avoir la foi, même sans rien sentir. Ça, c'est la vie chrétienne. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité écrit à ce sujet: « Lorsque l'âme sait croire à ce trop grand amour qui est sur elle, » elle cite saint Paul, « trop grand amour », on peut dire d'elle qu'elle est comme Moïse. Il était inébranlable dans sa foi, comme s'il avait vu l'invisible. Alors Moïse, c'est aussi un champion de la foi. Parce que il a traversé la mer Rouge sur l'ordre de Dieu, il y avait de l'eau. Il ne savait pas que ça allait s'ouvrir. Il a traversé la mer Rouge, il a conduit le peuple à la terre promise, malgré tous les impédimentas, pendant 40 ans dans le désert, et il a continué de croire qu'il allait atteindre la terre promise. Peu lui importe, continue la bienheureuse, donc cette âme ne s'arrête plus au goût et au sentiment. Peu lui importe de sentir Dieu ou de ne pas le sentir. Peu lui importe si Dieu lui donne la joie ou la souffrance, elle croit à son amour. Vous voyez ce qui nous manque souvent ? Manque de foi. Nous sommes certains de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu pour nous, quoi qu'il nous arrive. Et si l'âme est hantée sur cette foi profondément, elle marche droit, ferme et stable. Aussi, continue la bienheureuse, à cette âme tout éveillée en sa foi, la voix du Maître peut-elle dire dans le secret intime cette parole qu'elle adressa un jour à Marie-Madeleine: va dans la paix, ta foi t'a sauvé. La foi est donc d'abord obscure. Deuxième caractéristique de notre foi, la plupart du temps, elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve, comme dans le cas de Saint-Joseph. Alors, dans le cas de Saint-Joseph et d'Abraham, c'est une épreuve énorme, parce qu'ils ont une mission énorme à accomplir. Pour conduire la Sainte Famille, il fallait une foi extraordinaire. Donc il fallait une épreuve à la mesure, parce que l'épreuve de la foi l'a fait grandir. L'épreuve de la foi, dans l'épreuve, la foi est obligée de s'appuyer sur Dieu seul. Et dans notre vie, l'épreuve, c'est des situations, des événements incompréhensibles. Soit des événements extérieurs, soit des attitudes de nos proches ou de personnes avec qui nous avons affaire, qui sont incompréhensibles et qui nous tombent dessus d'un seul coup. Plus elle est éprouvée, plus la foi grandit, parce qu'elle traverse, pour ainsi dire, tous les obstacles pour aller se reposer au sein de l'amour infini qui ne peut faire qu'œuvre d'amour. La foi est donc éprouvée. Alors comment exercer notre foi pendant ce temps de l'Avent? Il nous faut bien sûr profiter de la liturgie. La liturgie des dimanches et puis également la liturgie des quatre temps va remettre sous nos yeux les prophéties de l'Ancien Testament, va remettre sous nos yeux les paroles de Saint Jean-Baptiste, toutes ces paroles que nous commençons à connaître au fur et à mesure des années liturgiques. Il est bon toujours de rechercher le sens, de les méditer, de les prendre pour nous, pour exercer notre foi. Le père Emmanuel de Mélisse-Saint-Loup remarque: un chrétien, pour plaire à Dieu, doit faire des actes de foi souvent, dans la prière, dans la pratique d'une vie chrétienne, dans la réception des sacrements. Le chrétien doit, par une obligation rigoureuse, pratiquer la foi, en faire l'acte intérieur avec plusieurs des actes extérieurs de la vie chrétienne. Alors ça aussi, pendant l'Avent, ce que vous pouvez faire très concrètement et facilement, sans rien rajouter, c'est que quand vous venez à la messe le dimanche, essayez d'être moins passif. c'est-à-dire de profiter, je disais, des textes du missel, par exemple en les lisant la veille, non pas en les découvrant le dimanche en même, au milieu de la messe, mais en les lisant la veille, en essayant de comprendre le sens, notamment des très belles collectes, des très belles oraisons du missel, le sens des paroles de Saint Jean-Baptiste dans l'Évangile, et d'éveiller votre foi quand vous suivez les cérémonies, quand vous voyez la consécration, quand vous voyez l'offertoire du prêtre, de vous rappeler le sens de toute cérémonie et d'y exercer votre foi. Je ne vois rien, mais Dieu est là. Mais Dieu agit par l'intermédiaire du prêtre. Cet exercice de la foi, je le disais tout à l'heure pour le silence, et c'est parce que le silence nous fait grandir dans la foi, cet exercice de la foi donne la paix et la joie stable au fond de l'âme, pas forcément à la surface. Parce que quand nous sommes dans la tristesse ou dans la souffrance ou dans l'épreuve, à la surface, il y a la bourrasque. Mais la foi donne la paix et la joie au fond de l'âme. Et puis, troisième résolution que nous pourrions prendre à l'image de Saint Joseph pendant ce temps de l'Avent, c'est l'obéissance à la Providence. Regardez ce qu'a fait Saint Joseph. Il a suivi les indications de Dieu. Il n'a pas précédé la Providence, il a attendu de voir ce vers quoi Dieu le conduisait. Et souvent, soit par impatience, soit par orgueil, ce qui revient à peu près au même, nous voulons conduire. J'ai prévu comme ça et ce sera comme ça. Eh bien non, ce ne sera pas comme ça parce que Dieu, c'est lui qui conduit. Et il conduit bien souvent autrement que d'après nos plans humains. Donc l'obéissance à la Providence. Avoir une attention vigilante, détachée de nous-mêmes pour saisir le bon plaisir de Dieu et avoir le courage de nous y soumettre sans voir où il va. Ça qui est difficile. De nous laisser conduire sans voir la destination où il veut nous conduire. C'est aussi ça, redevenir enfant. Notre Seigneur dit, si vous ne redevenez enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Ben, ça fait partie de ce sport de redevenir enfant. Redevenir enfant, c'est se laisser conduire par la Providence au jour le jour, sans voir où nous allons. Et quand ça contrecarre nos plans, de dire oui, Seigneur, je suis. Saint François de Sales écrit, par cette façon de procéder entre l'ange et Saint Joseph, l'ange qui lui dit de prendre Marie chez lui, puis plus tard qui va lui dire de fuir en Égypte, sans lui dire d'autres détails. C'est toujours comme ça, hein, les anges, quand ils apparaissent, ils disent des choses mais ils ne donnent pas de détails. Comme quand Saint Pierre est en prison, après la résurrection de notre Seigneur, il est mis en prison, l'ange vient de délivrer. Toutes les portes des prisons s'ouvrent, il sort sur la rue et puis là, débrouille-toi. C'est fini, il doit chercher lui-même. Donc il doit être attentif à la Providence. Alors Saint François de Sales dit, par cette façon de procéder entre l'ange et Saint Joseph, nous sommes enseignés comment nous nous devons embarquer sur la mer de la divine Providence, sans biscuits, sans rames, sans avirons, sans voile, les biscuits c'est les provisions. Sans biscuits, sans rames, sans aviron, sans voile, et enfin sans nulle sorte de provision. Et ainsi, laisser tout le soin de nous-mêmes et du succès de nos affaires à notre Seigneur, sans retour ni réplique, ni crainte quelconque de ce qui nous pourrait arriver. Il faut se comporter comme Notre-Dame et Saint-Joseph, il faut être tranquille en notre peine, et laisser le soin à notre Seigneur de nous l'ôter quand il lui plaira. Difficile. Eh bien, suivons Saint Joseph. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Et il a fallu qu'il meure, sans doute, qu'il aille au ciel pour comprendre le plan de Dieu sur l'incarnation. Puisque, comme je vous le disais, il n'a pas vu notre Seigneur prêcher, il n'a pas vu notre Seigneur faire de miracles. Il a vu simplement, quand Jésus avait 12 ans, il l'a vu rester à Jérusalem au milieu des docteurs, encore un mystère, et le dire, pourquoi me cherchiez-vous ? Et il n'a pas eu d'explication pendant toute sa vie. Mais il avait la foi et il avait la docilité à notre Seigneur, à Dieu, aux inspirations, aux directions de Dieu. Eh bien, embrassons donc pendant ce temps de l'Avent, surtout si vous avez des difficultés particulières, des soucis particuliers en ce moment, embrassez ces difficultés avec la confiance filiale dans la direction de Dieu. Dieu est forcément là. Dieu a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nous, et il nous laisserait tomber maintenant? Pas possible. Donc il est forcément là, dans la mesure où nous, nous lui sommes fidèles, lui prend les choses en main. Alors pendant ce temps, l'avant, accompagnons Saint Joseph et la Sainte Vierge dans ce mystère qu'ils vont vivre de la naissance de Jésus. La Sainte Vierge non plus ne savait pas comment ça allait se passer, la naissance. Et embrassons la volonté de Dieu. Embrassons de toutes nos forces la volonté de Dieu. Il y avait un père dominicain au début du XXe siècle qui s'appelait le père Vessière, et il avait eu comme grâce particulière de comprendre ce qu'était la volonté de Dieu. Et si nous suivons les théologiens qui expliquent cela, Dieu est tout saint. Il n'y a pas de composition en Dieu comme en nous. Chez nous, il y a une composition entre notre corps et notre âme. Dans notre âme, il y a la substance de l'âme, et il y a les puissances de l'âme, les puissances sensitives, les puissances spirituelles. Tout ça, c'est très compliqué. En Dieu, tout est simple. Eh bien, en Dieu, il n'y a pas de différence entre la substance de Dieu, son être et sa volonté. Dieu est sa volonté. Dieu est son intelligence. Dieu est son acte. Dieu est sa volonté. Et donc, quand nous embrassons la volonté de Dieu, nous embrassons Dieu, tout simplement. Voici comment le dit le père Vessière. Dieu est tout entier présent dans sa volonté, dit-il. Il y est avec sa sagesse, sa puissance, son amour surtout, son action toute divine, purifiante et transformante. Le voir, y adhérer, en vivre, se laisser faire, se laisser aimer, quel secret de perfection! On va chercher la perfection bien loin très souvent. Et elle est là, à nos côtés, en tout ce qui arrive. Tout nous la porte. Et il suffirait de lui ouvrir portes et fenêtres. Mais on a garde de le faire, on se concentre en soi sur le pauvre moi dans lequel on s'obstine et on s'enferme. Sortons du moi pour entrer dans cette divine volonté dans laquelle nous sommes en réalité plongés comme le poisson dans l'eau. Dans cette divine volonté que la foi nous montre en tout, laissons-nous envahir, pénétrer, posséder par elle. Elle nous apporte la vie, l'amour et Dieu lui-même. Et je finis avec cette citation d'un jésuite, le père de Caussade. Quand la volonté de Dieu s'est révélée à une âme et qu'elle lui a fait sentir qu'elle est prête à se donner tout entière, pourvu que l'âme se donne à elle aussi de son côté, c'est-à-dire quand nous recevons, nous comprenons la volonté de Dieu qui contrecarre peut-être nos plans, qui ne nous plaît pas, mais que nous sommes prêts à nous donner tout entier à cette volonté, alors, dit le père de Caussade, l'âme éprouve en toute rencontre un secours puissant. Et alors, elle goûte par expérience le bonheur de cette venue de Dieu. Et vous en avez certainement l'expérience. Au moment où nous disons « Fiat », nous disons « Oui Seigneur », nous entrons dans la paix et même dans une certaine joie, quelle que soit l'épreuve. Et c'est la vie de Saint Joseph. Il a rencontré beaucoup d'obscurité, beaucoup d'épreuves, très difficiles, mais il s'est toujours soumis, non pas d'une soumission encore flegmatique, puisque c'est ainsi rien à faire, mais d'une soumission volontaire et amoureuse de Dieu. Demandons-lui cette grâce et essayez de pratiquer pendant ce temps de l'Avent, donc ces trois possibles résolutions, un peu plus de silence, du silence extérieur pour le silence intérieur, pour laisser la place à Dieu, un silence occupé par la recherche de Dieu. Deuxièmement, l'exercice de la foi, notamment dans la prière. Il n'est pas forcément nécessaire de prier plus, mais que chaque fois que vous priez, ce soit une prière et pas des mots, et non pas une récitation, mais que chaque fois que vous allez prier pendant ce temps de l'Avent, que ce soit un vrai entretien avec Dieu qui est présent et qui vous écoute. Et puis, cette soumission dans le menu de la vie à la volonté de Dieu. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.